Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui fait la grimace, mais ça ne se voit pas.
Bonne thématique. Bonsoir à tous.
Salut Thio, nous nous retrouvons encore pour notre 12e épisode. Nous allons parler de bande dessinée et que de bande dessinée. Nous allons encore noter l'absence de manga dans cet épisode. Malheureusement, on n'a rien trouvé. On n'a rien acheté, surtout en fait.
C'est ça, c'est clair, on n'avait rien acheté.
Bah, on a eu beaucoup de nouveautés dans les trucs qu'on suivait.
Et notre budget n'étant pas follement extensible, on ne peut pas tout acheter.
Donc un épisode, nous aurons beaucoup de neufs, un peu de rattrapage. On y a échappé il y a 15 jours, mais on a réussi à ressortir un truc de nos archives.
Ah mais là c'est un truc du néant, mais qui est exceptionnel.
Sorti du fondement, on pourrait dire, pour être dans la thématique. Et puis une petite hors-série. Nous allons parler donc de la Brigade Chimérique, de Ultimate Spider-Man numéro 2, de No Hero, de 100 Bullets, de Tête de Marron, de La Pro. Et on finira par un petit hors-série sur les contes macabres d'Edgar Allan Poe, dessiné par Benjamin Lacombe. Et bien, on va pouvoir démarrer de suite. Je te laisse la parole, mon cher Thio. Tu vas pouvoir nous parler de la Brigade Chimérique, le tome numéro 5.
Donc, qui est toujours paru chez La Talente, qui est au prix de 11 euros. C'est l'avant-dernier tome, ce tome 5. Petit rappel rapide, on est donc dans un monde avec un continent européen qui est assez segmenté, on va dire, avec différentes parties.
Bon, quelle époque déjà ? C'est les années...
20, 30.
On est entre l'entre-deux-guerres.
20-30,
on est dans les années 30.
Ouais. 20-30, c'est entre les deux.
Hein. Bah on est dans les années 30 plutôt, parce qu'on est pas loin. Hein.
Entre 20 et 30. 30, allez.
Je suis sûr qu'il y a la date précise qui est donnée dedans.
32 et demi. Donc voilà, avec différentes parties. Donc la phalange en Espagne, qui serait un petit peu le régime franquiste. Marie Curie et Léo Sinclair, qui s'appelle donc le Nyctalope, qui dirige la France. Andrew Giberne, qui est l'accélérateur, qui est un sérum d'accélération, qui est un super-héros en Angleterre. Le docteur Mabuse, qui règne sur l'Allemagne.
Bref, on a plein de super-héros, plein de qui super-héros sur la gueule, voilà, de partout. Des super-héros à la française, enfin à la française, à l'européenne, dans les années 30, qui sont basés sur des personnages de la littérature populaire de l'époque. Voilà. On va pas rentrer dans le détail des personnages parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Vu que c'est...
Quatre fois.
C'est la troisième fois, je crois, qu'on en parle, ou la quatrième fois. Enfin bon, dans les épisodes précédents.
C'est la troisième fois, parce qu'en fait, je crois que les trois premiers, on les a fait ensemble.
D'affilée, il me semble. Donc, c'est la troisième fois qu'on en parle. On vous a déjà un peu raconté tout ça. On va juste donner le nom des auteurs parce qu'ils le méritent.
Parce qu'ils le valent bien. Serge Lehmann, Fabrice Collin, Jess, Céline Bessonneau.
Voilà, Céline Bessonneau à la couleur, Jess au dessin et les deux autres au scénario. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'histoire avance ? Parce qu'on avance, on approche de la fin.
Alors, on approche de la fin parce qu'en fait, nos personnages dans le tome précédent ont trouvé, donc, enfin, libéré, on va dire, Samsa des geôles du Nyctalope. Samsa, donc, leur a donné une sorte de mot de passe, HAV russe.
Ouais.
Donc, nos héros, Severac et Georges Spad,
se demandent bien ce que ça veut dire.
Se demandent ce que ça veut dire, avec l'aide, donc, de Marie Curie, de son mari...
Bob ?
Frédéric.
Ah, pardon. J'ai toujours été nul en histoire, je suis désolé.
Et en fait, c'est pas Marie Curie, c'est sa fille, c'est Irène. Ouais, c'est Irène et Frédéric.
Voilà. Parce que c'est Pierre et Marie Curie, ça, je
voilà. Me et donc, du coup, ils sont en train de chercher justement la signification de ceci. Et Georges Spad a l'idée, justement, d'aller donc dans un club très fermé, qui est le club de l'Hypermonde, qui regroupe beaucoup d'auteurs, on va dire, de l'époque.
Ouais, les auteurs de SF de l'époque, quoi.
Voilà, les auteurs de SF de l'époque.
Les auteurs. En fait, on a tout fait la superbe même faute de liaison.
Donc, Maurice Renard, Jean Rey, Rosny, Harry Dixon. Et enfin, donc, un jeune nouveau, le petit Barjavel.
Ah, il fallait le placer, celui-là.
Il fallait le placer, celui-là, exactement. Avec un joli portrait de Victor Hugo en arrière-plan. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Et donc, nos personnages donc, dans ce club de
l'hypermonde
vont avoir la révélation qu'il faut donc aller combattre le docteur Mabuse, ce que Sèvres va accepter de faire de manière chevaleresque presque.
Oui, parce que le docteur Mabuse, en gros, c'est dans cet univers qui serait un univers parallèle au nôtre, c'est un peu le Hitler, quoi.
C'est un peu le Hitler, exactement. Et ça s'avérera que ce serait quand même un peu un mec sacrément poilu, quand même.
Oui, effectivement, il est velu.
Il est velu.
Une et de ses incarnations, quand il utilise ses pouvoirs,
est d'ailleurs est un ours quelque part, c'est un lien, quoi.
Voilà.
Donc, il va aller donc en Allemagne et
Oh, elle raconte pas tout non plus.
On raconte pas tout. On va juste dire que notre personnage de George Pat, qui avait donc des voix qu'elle entendait dans sa tête depuis des années et des lettres qu'elle ne savait pas dans quel ordre mettre, la réponse arrive dans ce tome.
On a beaucoup de réponses dans ce tome. Franchement, on avance, mais à grands pas, il y a beaucoup d'énigmes qui sont résolues. Des énigmes qui étaient lancées dans les premiers tomes. Des énigmes un peu plus récentes, comme le H.A.V.Rus. Qui est résolu. Et puis on sent qu'on arrive à la confrontation finale. Enfin, vraiment, on arrive à la fin du tome, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Je veux la suite, je veux la fin. Et c'est très très bien.
Bah, ça sent l'écurie, on arrive au bout, donc ça accélère. Hein.
Voilà. Donc, la Brigade Chimérique, à part dire le bien qu'on en a pensé sur les tomes précédents, moi je trouve que. J'ai été moins perdu dans ce tome-là que dans les autres. Je trouve qu'il y a toujours un peu trop de temps entre chaque tome, malheureusement.
Mmh.
Ils essaient de limiter au maximum, hein, mais l'histoire est dense. L'histoire est dense, en fait.
L'histoire est dense. En même temps, je veux dire, si commençait à les sortir trop vite, est-ce que tu n'aurais pas quand même aussi un peu une perte de qualité, surtout au point de vue du dessin ?
Oui, bien sûr. Par contre, un truc qui, je pense, aurait été bien vu. Alors peut-être qu'ils le feront dans l'encyclopédie jeu de rôle qui vont sortir derrière. C'est nous faire peut-être des petites pages entre guillemets encyclopédiques pour nous resituer les références historiques. Parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'époque. Je connais certains des auteurs, par exemple, qu'il y a au club de Hypermonde pour en avoir entendu parler. Jean Rey, Harry Dixon, c'était un personnage d'un des romans. Il y a certains certaines des références, mais il y en a certaines qui m'échappent. C'est pas essentiel à la compréhension de l'histoire, mais je trouve que
ça aurait pu être un petit plus d'avoir justement le détail. Quoi.
Ouais, on perd un peu en finesse quand on n'a pas la culture qu'il faut.
Disons que revenir à ce qu'on avait vu sur d'autres bouquins, comme par exemple Granville, où à la fin tu avais, je sais plus quel éditeur c'est,
Milady,
qui justement fait ça à la fin de chaque saison, enfin. Les bouquins qu'on a achetés récemment, en tout cas, avaient...
Chez Milady, il y a toujours un petit côté bonus à la fin.
Qui est assez sympathique, parce que du coup, ça te permet quand même d'avoir un petit historique ou de comprendre comment ça a été fait.
Ça avait été fait aussi sur les premiers tomes de Fable en VF, en version française, chez Semic, où ils avaient resitué un peu les personnages de contes anglais qu'on ne connaît pas forcément en France, genre Boy Blue, qu'on ne connaît pas du tout en France, le trompettiste. Qui est un personnage de comptine anglaise, hein, et c'est vrai que là c'est vrai que c'est censé être notre culture, mais quelque part ça nous parle de personnages oubliés et effectivement
c'est pas une culture qui est arrivée jusqu'à nous.
Voilà, même si j'ai déjà lu du Harry Dixon, je connais un peu Jean Rey,
c'est bon, t'as fini de te vanter.
Ouais. D'ailleurs, attention, c'est là que normalement je me couvre de honte. Il me semble que Jean Rey est l'auteur d'Harry Dixon. Nous verrons ça plus tard.
Case Time Warp, non ?
Ouais, on verra. Hein. Si j'ai dit une grosse connerie, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et nous allons donc passer à quelque chose de beaucoup plus léger. Oh, quel synchronisme !
Autant sur le prix que sur le nombre de pages.
Oui. C'est le Ultimate Spider-Man tome 2, 4€ chez Panini Comics. Il y a 44 pages, un truc dans le genre.
Allez. C'est pas cher, c'est léger. Voilà. Ça se lit vite.
Ah, ça se lit vite. Hein. De Brian Michael Bendis et David Lafuente au dessin. C'est dans la continuité du précédent tome. Sauf que c'est moins riche. En gros, là, on a donc deux volumes américains regroupés dedans et... On apprend quoi? Que la torche humaine s'installe chez Peter Parker.
Yeah.
Enfin, chez Tante May. Que Peter Parker a toujours un boulot de merde, qu'il a toujours du mal à gérer ses ex. Que.
Ouais, mais on n'était plus ensemble.
Ouais, ouais. Que Peter Parker doit affronter le méchant Mysterio, qui en gros est son adversaire dans les deux trucs. Et que le mystérieux pseudo super-héros avec une cape rouge, Red Hood. Vous comprendrez le petit rire de Thio si vous avez écouté le podcast précédent. Donc Red Hood qui a l'air de sauver les gens comme il peut et qui essaie de se brancher, c'est Mary Jane, hein, je sais plus laquelle.
Ouais. Non. Enfin, oui.
Oui, Mary Jane. Donc voilà, c'est. Bon, on est dans de l'histoire d'ado, c'est très bien foutu, c'est franchement. Pour moi, c'est de l'excellent Ultimate parce que ça remplit totalement le rôle que doit remplir, selon moi, cette collection. C'est remettre les personnages emblématiques de l'univers Marvel à la portée des jeunes. Maintenant, tu ouvres n'importe quel Captain America, Spider-Man ou quoi que ce soit, mais tu sais plus où t'en es, quoi. Là,
il faut avoir 30 ans de référence.
J'ai feuilleté un X-Men il y a pas longtemps. J'ai arrêté, ça doit faire 10 ans que j'ai arrêté de suivre assidûment les X-Men, à part 2-3 petites sagas à gauche à droite. Je sais plus où j'en suis, hein. Ah là là, on vieillit, hein, mon brave homme, on vieillit. Nous vieillissons, mais heureusement.
Heureusement arrive le nouveau Planetary.
Et on l'attendait celui-là aussi. Hein.
Alors celui-là, il a pris son temps.
C'est le Planetary tome 4. Il me semble que le tome 5 sera le dernier. Je suis pas sûr.
On en reparle en 5 ans pour le tome 5.
À peu près. Mais il me semble parce que je crois qu'il est paru aux États-Unis. Enfin déjà. Enfin bon. Revenons sur ce tome-là.
Donc le tome 4 de Planetary
par
Warren Ellis et John Cassaday.
Voilà. Vas-y, abîme les coins de mes bouquins en les faisant tomber par terre. Ah !
Ça va, te transforme pas. Donc ce tome 4 donc, s'appelle Énigme et Répercussions. Nous nous retrouvons donc dans l'univers donc, de Planetary avec Elijah Snow.
Alors ouais, parce qu'on n'a jamais parlé de Planetary, il va falloir resituer un peu l'histoire.
Ouais, mais alors là, ça va être long si on repart du
début.
Bon,
alors, on va repartir du début. Allez, je le fais parce que je me souviens clairement du postulat de départ. Planetary est une agence planétaire qui a pour objectif d'enquêter sur les phénomènes paranormaux, en gros, qui ont lieu sur la planète. C'est une série que Warren Ellis a écrite en parallèle de sa reprise de The Authority et qui montrait... une équipe de The Authority qui est allée vers l'avant pour protéger le monde des problèmes que l'avenir lui amenait. Et une équipe plus tournée vers le passé, des sortes d'archéologues du paranormal qui parcouraient le monde pour comprendre les différents mystères qui étaient. Planetary est un peu le lien entre toutes les séries de Warren Ellis chez Wildstorm. C'est là qu'il va expliquer un peu l'origine de la plaie, comment ça fonctionne les liens entre les mondes. Et il y a une particularité, c'est que chaque histoire est indépendante. Chaque histoire est un one-shot, avec un fil rouge.
Mais faut quand même avoir lu les précédents pour comprendre certaines choses.
Oui, oui, il y a un fil rouge quand même, mais chaque histoire... est un one-shot, dans le sens où on n'a pas de cliffhanger à la fin d'un épisode, c'est pas le ta-da-da à suivre. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, non, c'est... je vois ce que tu veux dire, mais bon, c'est quand même...
Là, par exemple, on a une histoire qui a un... Alors, c'est beaucoup, au niveau des histoires, des clins d'œil à la culture populaire. Là, on a une histoire qui a un clin d'œil aux vieilles BD de western.
Yep.
Dont le Ghost Rider, exactement. D'origine. Merci Comic Box pour nous avoir apporté cette culture. Le Ghost Rider des origines qui était donc un cavalier,
un cowboy.
Y a quoi d'autre comme référence dans celui-là ? On a les origines du batteur, qui est un des personnages de l'équipe.
Et qui a ?
Qui a ?
La tête.
Oui, du dessinateur. Le dessinateur a dessiné le batteur, c'est John Cassaday. Alors, pour lancer le truc, en gros, début de l'histoire, ils vont chercher Elijah Snow.
Oui.
Pour le faire rentrer dans l'équipe. Et Elijah Snow a une particularité.
C'est qu'il est né en 1900.
C'est un enfant du millénaire, comme il les appelle.
C'est ça. Et qu'en plus, là, il est renaît. Enfin, il est revenu, mais il ne se rappelle pas Enfin, il se rappelle de rien.
Il est revenu en l'an 2000, en fait. Son pom, pom, pom.
Mais il ne se rappelle d'à peu près rien.
Voilà.
Et ben, du coup, il est en train d'essayer de récupérer tous ses souvenirs.
Pour les fans de The Authority, autre enfant du millénaire, Jenny Spark.
Jenny Spark.
Voilà. Si vous n'avez pas lu Authority, faites-le. C'est sorti en gros album avec tout dedans. C'est trop bien.
Sérieux ?
Oui.
Ah, ce sera mieux, plus facile à transporter que...
Que mes 50 comics répartis dans tous les sens. Oui, mais bon, je ne vais pas tout racheter non plus. Ça me fout un peu les boules.
Je crois que je le rachèterai peut-être. Je mettrai en ligne des cadeaux pour Noël.
Ouais. Ah ouais, ça vaut le coup. Donc, voilà. Voilà, j'ai mis le début. Tu peux reprendre la suite. Où on en est maintenant de la série ?
Enfin, t'as mis le début... T'as mis le début, mais en fait, grosso modo, t'as quand même grandement rempli la case, quoi.
Ah ouais, mais... je t'ai raconté le début du tome 1, en gros.
Donc, Elijah Snow donc, revient de nouveau. Ils sont en train d'essayer de découvrir... d'utiliser, justement, donc, des programmes de... On va dire... Oula, je vais pas y arriver. Le limoncello, il m'a fait mal. Hein.
Ouais.
Se rappelle donc de programmes qui ont été lancés donc par Planetary,
oui,
pour justement donc essayer de conserver l'ordre mondial, et il veut utiliser donc les anges pour s'attaquer
aux quatre.
Aux quatre.
C'est une parodie des quatre fantastiques, enfin une réécriture des quatre fantastiques.
C'est ça. Et avec les quatre méchants, et là donc il va essayer de se débarrasser de la chose dans le premier épisode.
Voilà. Oui, parce qu'il a retrouvé la mémoire dans le tome précédent.
Une partie toujours.
Oui,
je crois qu'il n'a pas tout récupéré.
Mais assez pour qu'on se rende compte que c'est quand même un sacré salopard. Un peu, hein.
C'est pas un sacré salopard.
Disons qu'il se donne les moyens de réussir ce qu'il veut réussir.
Exactement.
Donc oui, il y a cette lutte. En gros, il essaye de défaire les quatre en question, qui apparemment sont des super scientifiques. Qui, pareil, ont fait une aventure spatiale dans la plaie et qui sont revenus avec des super pouvoirs.
Et qui essayent d'influer, on va dire, sur le monde tel que nous on le connaît.
Attention, minute encyclopédique. Mais qu'est-ce que la plaie ? La plaie, c'est ce qui se situe entre les univers. Et c'est la chose à traverser pour passer d'un univers à l'autre. Et c'est très compliqué. Voilà. C'est toute cette mythologie scientifique qu'a créé Warren Ellis dans cette série qui fait que parfois, il peut faire des super phrases avec plein de mots super compliqués qu'on comprend rien.
C'est un peu ça, je veux dire, les passages un peu psychédéliques, un peu chamaniques sur les bords, tu...
Oui, mais c'est très bien aussi. On a les origines donc du batteur, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans cet épisode, qu'on apprend d'où il vient, d'où il tient ses pouvoirs étranges. J'ai du mal à définir les pouvoirs du batteur. En fait, il arrive à lire les réseaux d'informations, les réseaux d'informations.
C'est ça.
Tout le temps. C'est-à-dire que... tout ce qui va être ronde téléphonique, il sait le lire. Mais c'est plus... Ça va, il arrive à lire les réseaux entre les dimensions aussi, de temps en temps. Enfin, c'est un pouvoir très complexe. Et c'est un personnage très intéressant. Très fun. C'est le plus fun de l'équipe, quelque part. Parce que dans l'équipe, nous avons donc Elijah Snow, qui est un mec taciturne au possible, qui a trop vécu trop longtemps et que ça le fait chier.
Il est un peu l'homme à la cigarette, quoi.
Ouais. Jaquita
Wagner.
Wagner, qui est la bourrine super forte.
Ouais, mais elle bourrine bien.
Ah oui, non, mais c'est la bourrine super forte. Et on a le batteur, qui est le chef de l'information. Et là, on a un nouveau... L'ancien Monsieur Snow. Mais qui revient dans des flashbacks. Bon, bref, c'est une histoire assez complexe. Il n'y a que 4 tomes, donc ça vaut vraiment le coup d'essayer de se les choper parce que c'est très bien écrit. Et puis, il y a des références culturelles super intéressantes. C'est vrai que l'histoire est parfois un peu complexe, qu'on peut s'y perdre, mais c'est vrai que quand tu vois l'écart qu'il y a entre chaque tome, c'est le défaut principal. Moi, c'est ce qui est un peu dommage. J'ai eu envie de relire les précédents. Il faudrait que je le fasse, d'ailleurs.
Bon, donc en fait, ce qu'on va dire aux gens, c'est...
Achetez le numéro 1.
Vous achetez le numéro 5, quand il sortira. Puis vous rachetez aussi les 4 autres tomes en même temps. Et vous relisez tout d'un coup.
Voilà. C'est une très, très bonne série. Et les dessins de John Cassaday. Voilà, on n'en a pas parlé, des dessins de John Cassaday. Est-ce que le scénario de Warren Ellis est très, très bien ? Avec toutes ces références à la bande dessinée, aux romans, aux séries télé... Enfin, tout l'art populaire en règle générale. Mais le dessin de John Cassaday est super bien. Un côté très réaliste, mais très dynamique. Il arrive à faire des trucs super psychédéliques. Il y a des décors de malades. Bref, Planetary, c'est chez Panini Comics. Ça coûte 13€ pour le tome 4. C'est bon, mangez-en.
Et ça nous permet tout de suite de passer à No Hero.
Deux.
Oh, mince.
Encore
ou Warren Ellis.
Tu vois qu'on a réussi, je crois, à faire un ou deux épisodes sans Warren Ellis, mais là, on se rattrape, on fait un épisode avec deux Warren Ellis. Alors, non pas que j'adore ce scénariste, mais il est vraiment omniprésent, j'ai l'impression, dans les sorties en France en ce moment. Donc, c'est à moi d'en parler, de No Hero. Ce que raconte No Hero. No Hero,
c'est à toi.
Est un peu, on va dire... beaucoup pourraient penser que c'est une suite de Black Summer, dont on a déjà parlé. Premièrement, parce que c'est aussi dessiné par Juan José Rip.
Donc la même équipe.
Voilà. C'est aussi édité chez Milady. C'est aussi sorti aux États-Unis chez un petit éditeur qui s'appelle Avatar. Et ça parle aussi de super-héros, on va dire, débutants. Petite histoire de super-héros. Bon, en gros, c'est un mec. Son objectif dans la vie, c'est de devenir un super-héros. Et dans cet univers-là...
Il n'y a qu'une seule équipe de super-héros.
Et il n'y a qu'un seul moyen de devenir un super-héros, c'est de rentrer dans cette équipe et de prendre...
The Leveler.
Une drogue.
Le FX7.
Qui permet d'obtenir un super-héros quand ça marche.
C'est ça.
Et on suit le parcours de ce mec qui a... comment ils appellent ? C'est un... Il y a une expression pour dire ces mecs qui sont pas de drogue, pas d'alcool, du sport. Ils l'utilisent plusieurs fois dans le bouquin. Ah, les straight...
Straight line.
Je sais plus.
Il est végétarien aussi.
Ouais, il est végétarien aussi. Enfin, c'est des gens qui ont une hygiène de vie super carrée. Et le mec va accepter de prendre cette drogue, ce qui va un peu contre son hygiène de vie, parce que son plus grand rêve, c'est de devenir un super-héros. Et ça se passe super top.
Pour lui, non.
Et pour l'équipe qui on révèle petit à petit tous les côtés sombres de cette équipe qui est là pour sauver le monde, en fait. Et qui n'est pas si propre que ça. Que dire ? Nous avons le dessin de Juan José Rip, toujours dans la même veine, qui fait un peu penser à du Geoff Darrow, pour ceux qui connaissent, qui est plein de détails, beaucoup de traits, des décors quand il y en a, hein, parce qu'on est dans du comics, il n'y en a pas tout le temps non plus, très travaillé. Des personnages assez caricaturaux.
Oui, il y en a tellement peu que c'est quand même facile de les travailler quand même.
Oui. Bah, ça dépend des pages, dès que tu as sur les pages d'action. Ouais, non, non, bah,
non,
pas...
non, non,
bah, tu vois, il a un trait tellement travaillé, ce mec-là, que j'ai cru qu'il faisait plein de décors. Alors que non, en fait.
En fait, il n'y a rien comme décor. Hein.
Bon, d'accord, ça va. J'ai dit une connerie.
Ah, pardon, si, là, il y a des nuages.
Ah, trop bien. Ah, là, il y a un désert. Non, c'est pas ça. Ah, ça se passe en Antarctique. Alors, petite chose amusante, avant de poursuivre dans l'histoire. Toutes les couvertures originales de la bande dessinée sont des clins d'œil à des couvertures originales de bandes dessinées célèbres. La couverture du numéro 1 de Watchmen, une couverture de X-Men, je crois, je sais plus lesquelles. T'as pas fait gaffe ?
Excuse-moi.
Au clin d'œil des couvertures ? T'as l'air circonspect, là, d'un coup.
En fait, non, là, je n'ai pas fait gaffe du
tout. Attends, t'avais pas vu le clin d'œil des couvertures de Watchmen ? On voit que ça. C'est... Ah oh là là... Attention, Time Warp. Et donc, nous revenons du Time Warp. Putain, faut que je le garde, ce bruitage, il est cool.
Et là, donc, du coup... Et oui, bien évidemment, c'est une magnifique couverture. Ah, maintenant que tu m'as fait... Ah, Watchmen, d'un coup...
Je t'ai mis le doigt dessus, violemment.
Non, attends, tu m'as dit Watchmen, et d'un coup, je fais... Ah, bah oui, c'est vrai, c'est exact, tu as raison. C'est bien un bon rappel des Watchmen et de X-Men.
Voilà, et puis il y en a d'autres avec des références que j'ai pas forcément toutes captées, mais bon. C'est alors, ça part pas aussi trash qu'un Black Summer, ce qui fait que on va peut-être, c'est une BD dont on a moins parlé, mais que je trouve un peu plus intéressante sur la thématique. C'est vraiment jusqu'où est-on prêt à aller pour avoir des pouvoirs. Et pourquoi est-on prêt à aller si loin pour avoir des pouvoirs? Et Warren Ellis propose des réponses assez intéressantes. La difficulté, c'est que y a bien sûr un twist final qui fait qu'on ne peut rien dire. Dans un scénario bien écrit, quoi. Plus de mots, vas-y.
Plus de mots. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour devenir un super-héros? C'était la thématique un peu de Black Summer où les super-héros prenaient le pouvoir. pour, on va dire, recentrer la société sur des vraies valeurs.
C'était Black Summer, la question était différente. C'est
On est des super-héros, donc
voilà.
Donc
que doit-on faire ? Que doit-on faire lorsqu'on est un super-héros ? C'était plus la question de Black Summer.
Non, c'est ouais. Enfin, que doit-on faire ? Surtout, c'est que on est des super-héros, donc on doit choisir pour vous parce que vous n'êtes pas capable de le faire.
En fait, voilà. Black Summer, c'est jusqu'où peut-on aller quand on a des pouvoirs ?
C'est nos héros, c'est
jusqu'où peut-on aller quand on veut des pouvoirs ?
C'est bon.
Voilà, donc nous allons passer à une autre parce qu'on est en train de s'enliser, que ça devient pénible pour vous autant que pour nous. Et nous passons donc au tome, je ne sais plus combien, de 100 Bullets, car...
10.
10. Oh, le tome 10, nous avons enfin le numéro 50 en VF, mon Dieu. Plus que 50 numéros américains, donc plus que 10 numéros en VF, trop bien. La publication française est lente, mais elle est lente. Ouh là là, c'est terrible.
Elle est trop lente. Ce qui fait que du coup ça devient très 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 trop lourd et que ça me saoule. Voilà, je veux dire, Dread Bullet c'est une excellente série, mais ça paraît tellement lentement que je pense que le jour où on arrivera enfin à voir le dernier numéro, on te sera obligé de tout relire parce que de toute façon c'est une histoire qui est très très complexe.
L'intrigue complexe. Coup de bol, ce tome-là
ne sert à rien.
Si l'intrigue est moins complexe, ce tome-là pour moi sert dans sa première histoire, il y a deux histoires en gros. À introduire de nouveaux personnages.
Ouais.
Parce que je pense qu'on les reverra.
Bah, j'espère, parce que sinon, c'est vraiment qu'il ne servira à rien.
Et à faire le point. Le tome 50 est là pour faire le point et introduire aussi de nouveaux personnages. En gros, on a de nouveaux acteurs dans la pièce d'Undread Bullets qui viennent se mettre. Enfin, bon, remplaçons Undread Bullets pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier podcast où on en a parlé. Undread Bullets, c'est une série de Brian Azzarello au scénario et de Eduardo Risso au dessin.
Lauréate de plusieurs Eisner, de Harvey Award.
Enfin bon, c'est un plein de prix, c'est super bien. Et c'est fini aux États-Unis, hein, voilà. Au numéro 100. Il nous en reste 50 en France.
Donc le pitch de départ, c'était donc un des Minutemen qui donne une valise avec une arme, 100 balles qui sont intraçables et les documents qui prouvent à la personne qui a gâché sa vie. Et on lui dit, tu peux faire ce que tu veux de l'arme. De toute façon, tu ne seras jamais inquiété.
Aucune conséquence.
Voilà. Ça, c'était le tout début, on va dire, donc, de Undread Bullets. Puis, ça a changé. Maintenant, on n'est plus trop à la valise avec les 100 balles et le revolver.
Dans ce tome.
Ouais, on y revient. Mais bon, ça fait quelques tomes quand même qu'on n'avait plus vu de valise. Hein.
Oui.
Et on va dire une catégorie, donc les Minutemen qui gèrent un peu les affaires courantes, une caste au-dessus qu'on appelle les 13 qui essayent de gouverner le monde depuis
longtemps,
c'est ce qu'on découvre dans ce tome-ci. Enfin,
depuis en gros la conquête des Amériques.
C'est ça, depuis la Renaissance, quoi.
Voilà. Mais ça, on le savait à peu près. Hein,
on avait déjà des infos là-dessus.
Et les Minutemen qui travaillaient pour eux pour les empêcher de s'entretuer, en gros.
C'est ça, qui savaient.
On a bien résumé ce qu'on a appris jusqu'ici. Toutes les informations sont par petites touches, petit à petit, sur des histoires très très bien menées.
Qui sont des fois totalement, presque on va dire, en dehors du contexte. On n'est plus dans le même pays, on parle d'autres personnages, mais ça se rattache plus ou moins à l'histoire.
Et donc, dans ce tome-là, nous allons suivre les aventures de un jeune homme. Vas-y, t'es pas obligé de dire son nom à chaque fois. Toi aussi, tu as une mémoire des prénoms pitoyables.
Ouais, mais attends, je fais pas avec mes élèves. Hein. Bob.
Ouais.
On va l'appeler Bob.
On va l'appeler Bob. Alors, il s'appelle peut-être pas Bob, mais on va l'appeler Bob, qui est un gros bourrin.
C'est... Oh, punaise, c'est pas possible.
Attention, Time Warp. Jack, bien sûr. Franchement, notre mémoire n'a pas besoin de grand-chose, à part Time Warp, pour revenir. Donc, c'est Jack, qui est un gros bourrin.
À qui on a donc filé une valise.
Et qui est un gros drogué aussi.
Non, pas du tout.
Voilà. Et il se retrouve dans une sorte de... On va dire, d'endroit où un gars organise des chasses.
Des safaris au tigre, mais en cage.
Un peu illégal, un peu illégaux. Enfin, qu'on n'a pas le droit.
Une chasse illégale, ça marche.
Voilà.
Voilà.
Et ce gars-là pète un câble, il décide de libérer les tigres. Il a quand même ce flingue, on se demande comment il va s'en servir. Et c'est très 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 bien mené d'ailleurs, parce qu'on se focalise sur le flingue pendant toute l'histoire en tant que lecteur, parce qu'on connaît l'histoire de ces flingues-là, et le scénariste arrive à nous bluffer à quasiment pas l'utiliser en fin de compte.
Assez, ouais, peu, assez peu. Peu, il est présent, mais sans. Mmh. Ouais. Ouais.
Voilà. C'est une histoire qui fait environ les trois quarts hein, de l'épisode. Et qui en gros introduit de nouveaux personnages qui, je pense, vont réapparaître dans la série. De toute façon, de ce qu'on a vu jusqu'ici dans la série, même le gars au fond à gauche, dans la troisième case perdue, peut revenir. Donc,
au fond du bar, il revient toujours.
Oui, donc quelqu'un qui a été un personnage central d'une histoire, il y a des chances qu'on le revoie. Et enfin, la deuxième histoire, plus courte, correspond au numéro 50 américain.
Et qui donc va nous retracer l'histoire d'un hold-up qui a mal fonctionné. Et pendant qu'ils attendent le dernier gars qui a fait le hold-up, un des personnages va raconter l'histoire du trust. Enfin, au début, qui s'appelait les 13, qui étaient donc, on va dire, ceux qui gouvernaient derrière les rois et les reines de la Renaissance, et qui vont donc donner ensuite le trust sur le Nouveau Monde. Parce que c'est eux qui vont se partager le Nouveau Monde dès le début.
Et la vraie question, c'est qui c'est ce mec pour en savoir autant ?
Autant sur le trust.
Parce que ça, on ne sait pas du tout. Et donc, c'est l'introduction encore de nouveaux personnages sur une histoire, toujours une histoire de hold-up qui est assez classique, mais qui est toujours très bien menée. Très, très bien menée.
Par contre, je vois un truc moi, qui m'interpelle, c'est... Alors ici, par contre, ouais.
Oui. Qu'est-ce qui t'interpelle ?
Alors, juste, voilà, comment est-ce... Est-ce que le mec a déjà écrit toute l'histoire, quoi ? Comment est-ce qu'il travaille ?
Je n'en ai aucune idée de savoir s'il a déjà écrit. Il avait prévu d'aller jusqu'à 100 tomes. Est-ce qu'il travaille au fur et à mesure ? Je n'en sais rien. Je pense qu'il a sa trame générale et qu'ensuite, il réfléchit à comment il va la remplir. Il a un plan général. On est comme dans de la série télé. Les mecs, ils ont un plan général. Ils ne savent pas trop comment ça va finir. Ou bien ils connaissent la fin déjà et puis ils essaient de trouver le chemin pour y aller. Parce que toi, tu...
Ah, attends, ce que je veux dire, quand tu vois dans tous les épisodes, les petits trucs qui reviennent, les petits trucs qui vont s'expliquer au fur et à mesure... Enfin, sérieusement, à écrire, c'est une histoire de malade.
Oui, oui, oui. On pense à un des tomes précédents où le personnage principal de l'histoire est un gars qu'on voit en fond de case dans une chambre d'hôpital.
Ouais.
Je pense qu'il doit avoir quelques épisodes d'avance, en gros. Il doit avoir quelques épisodes d'avance. Il doit connaître sa fin. Enfin, je suppose. Hein. Tu annonces pas que ta série aura 100 épisodes sans savoir comment elle va finir. Même si ça peut varier et dévier un petit peu en cours de route. Hein. Mais voilà. Parlons rapidement du dessin. Ce qu'on l'a déjà fait, mais les qualités sont toujours les mêmes. Eduardo Risso a un style très, très tranché. Un noir et blanc assez caricatural. Mais assez sombre, et qui colle très bien ce côté polar. Il y a un petit côté, je sais pas, il arrive à rendre un côté un petit peu crade. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un côté un peu brut, un peu sale, tu vois. Alors qu'il a un trait qui est très lisse en fin de compte. Bref, Eduardo Risso est un artiste magnifique. J'aime beaucoup son travail. Et on pourra aussi saluer les couvertures superbes dont... Ah, je trouve plus le nom du gars qui fait les couvertures, mais elles sont superbes. Je les adore.
Dave Johnson,
voilà. J'attends avec impatience la suite et j'espère que je pourrai lire le 100e numéro avant de mourir.
Avant de mourir, je pense. Hein. Par contre, tu vois, moi, un truc, je vois, par exemple, sur le trust, c'est que ce sont 13 familles.
Oui.
Et... que donc lors de la conquête, on va dire, du Nouveau Monde, ils ont envoyé 7 hommes.
Ouais.
Est-ce que 7 hommes, ce sont les Minutemen ?
Ça doit être les ancêtres des Minutemen.
Ouais. Sauf que donc du coup, 7 hommes vont signer leur acte avec 7 lettres, Croatoa, tu vois, mais ouais. Là aussi.
Mais c'est déjà venu le Croatoa.
Ouais.
On l'a déjà eu dans les épisodes avant.
Par contre, un truc tu vois, que j'avais pas remarqué, c'était.
Oui.
La balafre, c'est pas un autre personnage qu'on a déjà vu.
Là, je ne saurais pas dire. Oui, il y a un des personnages d'il y a très longtemps balafré. Mais bon, les balafres, c'est pas génétique. Hein. Ça se transmet pas. Ouais,
trois griffes sur le visage.
Ah ouais, ça me rappelle dans l'âge d'Apocalypse, Cyclope a trois griffes sur... Non, okay, rien à voir.
Ok, c'est bon, allez, tu sors. Passons à la suite.
Mais nous faisons rentrer Tête de Marron de Marion Mousse. Donc, Marion Mousse est un jeune homme contrairement à ce que ferait croire son pseudonyme, qui a un très joli prénom, je tiens à le signaler. Et il vient de nous sortir Tête de Marron chez Très Étrange. Et Tête de Marron, ça coûte 13 euros chez Très Étrange. Qu'ils sont forts, franchement. Crois-tu que ce soit un plan marketing ?
Ouais, je pense que vu le nombre de personnes qui vendent Très Étrange, je suis pas sûr que ce soit un coup marketing.
C'est un gros éditeur derrière Très Étrange.
Ah.
Voilà, c'est...
Enfin, tu le trouves pas partout quand même.
Oui, oui. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça nous raconte l'histoire de la boutique Pizza Luigi à Las Vegas, où divers clients sont là. Un couple qui apparemment veut fêter leur anniversaire de mariage.
Ouais, sauf qu'à peu près plus rien ne va entre eux.
Voilà, et ça se sent assez vite. Un mec qui attend.
Un vendeur d'aspirateur.
Oui, aussi. Les gens qui bossent à Pizza Luigi. Et on apprend que Frank Sinatra vient souvent dans ce restaurant.
Et arrive un jeune gars avec sa copine.
Ouais, un jeune gars avec sa copine, ils viennent de se marier. Ils veulent faire leur ligne de miel et tout. Et arrive Frank Sinatra.
Yes, ouais,
c'est la
Frank
classe.
Sinatra.
Frank Sinatra, donc, qui arrive effectivement. Et là, bah, il se passe un problème. Un vieux pote d'enfance de Frank Sinatra arrive, commence à le chercher un peu. Ah oui, Frank Sinatra, il se garde du corps, j'oubliais quand même.
T'as Frankie, t'as Monsieur Giancana aussi.
Ouais.
Et t'as son garde du corps, je sais plus comment il s'appelle.
Voilà.
On s'en fout un peu, je crois.
Et donc, bah, ce qui se passe, c'est que, en s'énervant un peu contre son vieux pote qui lui, en fait, reproche à Frank Sinatra de ne pas avoir fait l'armée, en fait.
C'est ça.
Bah, il s'énerve un peu et il lui donne un mauvais coup et le gars est mort. Sauf que Monsieur Giancana, le manager de Frank Sinatra, dit que Frank Sinatra, ce symbole national, ne peut pas avoir tué quelqu'un. Et que donc, c'est forcément quelqu'un d'autre dans le restaurant qui l'a fait. Et donc, il propose donc à la personne de se dénoncer contre une forte somme d'argent et de très très bons avocats.
C'est ça.
Et là,
on va donc virer dans une sorte de huis clos.
Bah, de toute façon, on ne sort quasiment pas, sauf
que ah
le final, on est dans un huis clos.
C'est un huis clos.
Ça ferait une très bonne pièce de théâtre.
Ouais. Ah ouais, tout à fait. Mmh. Avec donc ce...
Oui, que se passe-t-il ?
Attaque de chat. Ah. Donc c'est un huis clos dans lequel donc justement on va avoir donc nos personnages qui vont certains dire que oui, il faut sauver, on va dire, Frank Sinatra, il faut essayer d'éviter que ce soit lui. Ça c'est le rôle du fan.
Oui.
Qui est prêt à tout endosser, il y a aucun souci, mais sauf que Giancana veut pas
parce qu'il a trop le lien avec Frank Sinatra.
Voilà.
Et après, d'autres raisons.
Et d'autres raisons et puis d'autres qui eux refusent parce que c'est pas leur problème.
Voilà.
Enfin, et donc voilà, on va rentrer dans une bonne petite dynamique avec un état. Enfin, on va dire, on va établir les liens entre les personnages au fur et à mesure. On
se rend compte qu'il y en a certains qui se connaissent.
Qui se connaissent, qui ont des liens.
Qui sont déjà croisés.
Voilà. On est dans Lost.
Ouais, non, là tu vas un peu loin quand même. On comprend ce qui se passe quand même.
Ah, c'est vrai.
Voilà, non, c'est bien écrit quoi. On comprend ce qui se passe et quand on a lu la fin, on sait que le gars il savait où il allait quoi.
Moi, sur la fin, tu vois, j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu brouillon, quand même.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé que la fin manquait un petit peu de...
Moi, j'ai trouvé la fin sympathique. J'ai beaucoup aimé la fin. Je trouvais que... Alors, on sort du huis clos pour le final.
Alors, non, la fin est sympathique.
Oui.
Mais je trouve qu'elle manque de clarté.
Elle manque de clarté ? Ah, moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. J'ai trouvé que c'était très clair et que la fin, en fait... je vais le dire, c'est pas... C'est une fin qui demande une seconde lecture, il n'y a pas de révélation, mais en gros, ça nous apprend. On découvre juste qu'en fait, tout ce que nous racontait cette histoire, c'était l'histoire de ce couple chez qui les choses vont mal et qui essaie de se reconstruire et ils ont du mal, quoi. Et la conclusion de l'histoire nous montre comment ça se passe au final pour ce couple. Et que c'était le sujet de l'histoire, en fin de compte. C'est par eux qu'on démarre, c'est par eux qu'on finit. C'est d'eux que ça parlait, en fin de compte, et pas seulement de cette mésaventure avec Frank Sinatra, qui n'était qu'un prétexte.
Ouais.
Ouais.
Ah, oh, chouette, non. Ouais. Ouais.
Parlons un peu du dessin. C'est toujours difficile, hein, de parler du dessin.
Il vient bien en arrière, je dirais.
C'est, ouais.
Enfin, le dessin, je pense que l'histoire est quand même plus. Le fond est plus intéressant que la forme. Alors, le dessin, Enfin, pour moi, c'est pas un grand dessin quand même.
C'est du noir et blanc, déjà, on peut le signaler. On va faire un peu de descriptif. C'est un style très simplifié. Avec des traits simples.
Un peu caricaturaux quand même.
Ouais, mais je voulais pas utiliser le mot caricatural parce qu'on l'a dit quasiment de tous les dessinateurs dont on a parlé ces derniers temps. je trouve que je voulais pas me répéter. Bon, elle est un peu caricaturale, effectivement, on peut pas le nier. Il y a un petit côté burlesque voilà, dans le dessin, mais on est quand même dans une histoire sérieuse.
Bah, pour ça, je dis le dessin, moi je pense qu'il faut pas. Enfin, je m'attendrai pas dessus, quoi. Voilà, c'est moi je trouve pas. Le dessin est pas fantastique. Il sied bien, on va dire, à l'histoire.
Oui, il permet de rentrer dedans et de la suivre.
Mais parce que je pense que justement, si ça avait été un dessin trop réaliste, trop détaillé, je pense que du coup, l'histoire serait passée en arrière-plan.
D'accord. Tu penses que le dessin est volontairement autant simplifié pour mettre l'histoire en avant, en fait ?
C'est mon avis.
Ouais,
bah, bon, peut-être que ça se trouve, le scénariste-dessinateur te dira qu'en fait, c'est parce qu'il est meilleur scénariste.
Ou bien parce qu'il dessine comme ça.
Voilà, qu'il dessine comme ça, ou qu'il est meilleur scénariste que dessinateur, on ne sait pas. Mais,
voilà, mais bon. Bref, une histoire très sympa. Moi, j'ai bien aimé. On ne l'a pas fait il y a 15 jours, on va le faire là. De nos nouveautés, qu'est-ce qu'on conseillerait avant tout aux gens ? Ah, de toutes ces nouveautés.
Bon, ça, on jette.
Ouais, vas-y, fais ton tri.
Moi, je vire Spider-Man.
Ouais, qu'est-ce que tu garderais, là, si tu devais en garder qu'un de ces nouveautés ? Tu garderais lequel ? C'est dur, hein ?
Ah, si je dois en garder qu'un.
Ouais.
Hein, ce serait peut-être No Hero. No Hero. Là, du coup, l'air de rien, je m'orienterai vers des one-shots, quoi.
Ouais. Bah oui, c'est difficile parce qu'on a des histoires à suivre.
No Hero, je trouve que voilà, en one-shot, c'est moi, je trouve ça assez intéressant.
Ouais.
Bon, Tête de Marron, parce que c'est moi qui l'ai amené, que franchement.
Oui, il est bien. Bah, moi, disons que si je devais en conseiller qu'un seul. En essayant de ne pas prendre en compte qu'il y a des trucs à suivre, etc. Déjà, moi, je virerais No Hero. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui demande un peu trop de références super-héros, connaître un peu le genre, en fait. Ça demande de connaître d'autres choses pour vraiment l'apprécier.
Ouais, mais je veux dire, ça, c'est pas un critère. Maintenant, tout le monde connaît les héros.
Ouais, oui, c'est vrai.
Je veux dire, quand c'est bon, avec toutes les adaptations qu'on a eues à la télé.
Au cinéma, etc. J'irais peut-être regarder le Andrew Bullet. Bon, toi tu es sur Tête de Marron plus ou No Hero ? Allez, vas-y, fais ton choix. Lequel tu brûles là de suite ?
Bah, déjà, si j'en brûle un, c'est le tien.
Donc, je garde salaud
je garde Tête de Marron, c'est le mien.
Bon, alors, oui, vas-y, elle fait un choix plus rationnel.
Si je fais un choix plus rationnel, en fait, c'est que. Tête de Marron, parce que je pense que ça se prête plus à une relecture. No Hero, une fois qu'on l'a lu, on peut le jeter.
Ouais, je suis. Oui, c'est vrai, effectivement. Moi, je serais plus pour Andrew Bullet, parce qu'il a réussi, alors que c'est une histoire à suivre, Andrew Bullet, hein, à faire quelque chose d'assez indépendant, qui se lit très bien tout seul, avec une histoire très sympa sur l'histoire du fauve au départ. Il y a un très juste milieu entre l'histoire indépendante et l'avancée dans l'intrigue générale, avec le résumé de ce qui s'est passé et la création de nouveaux personnages. Moi, je mettrais celle-là en avant.
Ok.
Eh bien, passons de suite à notre séquence rattrapage.
Et là, Dieu sait que ça date.
Ah oui, ça date tellement que vous aurez du mal à le trouver. Ça s'appelle La Pro. C'était aux éditions USA. On peut le trouver sur des sites de vente dans les 9€ à peu près, mais bah, c'est épuisé.
Ça date de 2003, hein, donc.
Et 2003 épuisé quand même, c'est que j'espère qu'un jour ça sera peut-être réédité. Mais bon, on le trouve vraiment pour pas très cher en occasion. C'est de Garth Ennis, dont nous avons déjà parlé pour The Boys.
Et pour plein d'autres choses, donc.
Voilà.
Au
dessin, il faut que tu arrêtes le limoncello, c'est pas possible. Au dessin, c'est Amanda Conner, ancré par Jimmy Palmiotti et colorisé par Paul Moons. Ça va ? J'ai bien mis les choses ?
Tu l'as bien fait.
Bon, Garth Ennis n'aime pas les super-héros.
C'est définitif, hein, je crois qu'il n'y a pas de doute.
Il continue à le prouver là-dedans. après The Boys.
Voilà, enfin, c'était le précurseur de The Boys.
Voilà. C'est un one-shot. Petit avantage, c'est une histoire complète, il n'y a pas de souci. Amanda Conner est une... C'est vachement dur à dire au féminin. Bon, vieux de la vieille au féminin. Ça fait des années qu'elle dessine, elle a travaillé sur plein de trucs, elle a un style, moi, que j'aime beaucoup. Un style un peu simplifié, un peu crade, mais qui correspond très très bien à l'ambiance. Et que raconte la pro ?
La pro, donc, c'est l'histoire d'une prostituée qui va être observée par un...
un extraterrestre pervers.
Un extraterrestre pervers tout vert avec un gros bide.
Voilà, qui a toujours sa crème pour les mains et ses Kleenex à côté de son poste de vision.
Voilà, et qui va lui...
T'avais pas fait gaffe.
Si, là, avec les trucs si doux. C'est oui, la si doux crème.
Si doux crème.
Et qui va donc lui transmettre un petit peu de son âme cosmique et pour éveiller les pouvoirs qu'elle a en elle. Et donc là, notre prostituée va donc devenir un super-héros.
Et donc
rentrer donc dans la Ligue d'honneur.
Et la Ligue d'honneur, en gros, c'est un regroupement de super-héros qui sont des caricatures de la Ligue des Justiciers, la JLA.
Ah ouais.
Oui, ça va, fais pas ton naïf. Avec le Saint, qui est Superman.
Le King.
C'est le Batman.
C'est le Batman. On a la Dame.
Tu as oublié le petit...
Ah oui, ouais, son vaillant compagnon, le sous-fifre.
Le sous-fifre, voilà. La Dame, qui est la Wonder Woman, avec ses étoiles sur les nibards.
Ouais, mais qui est vachement mieux que Wonder Woman, quand même.
Bah, elle a des nibards, tu sais pas comment ils tiennent, quoi.
Citron Vert, qui est donc...
le Green Lantern.
Green Lantern. Et Speedo, qui est...
Aquaman.
Qui est Aquaman, et qui, en fait, a un magnifique...
Vous avez vu Borat ?
Borat, ah, j'allais te dire, voilà. C'est qu'il a la tenue de Borat avant l'heure. Voilà,
c'est assez phénoménal.
Et donc, notre chère prostituée va donc devoir se retrouver désormais à...
Être une super-héroïne.
Être une super-héroïne, sauf que elle, pour l'instant...
C'est une prostituée, elle passe son temps à jurer, alors qu'au milieu, tu as un groupe de super-héros qui sont des mecs... Super clean, nickel, propre, parfait.
C'est la Ligue d'honneur.
Voilà. On est dans la totalement parodie. À l'inverse de ce qu'on a dans The Boys, où les super-héros sont tous des enfoirés. Et là, on a des super-héros qui sont des gros niais. Parfaits. C'est des gens parfaits, mais totalement niais.
Ouais.
Et oui, on est dans la parodie totale, parce que ça en fait des tonnes.
Ça en fait des tonnes. Le, du coup, eux, ils combattent avec... presque avec le verbe, quoi. On est vraiment dans le combat, on a les belles phrases.
Voilà, tandis que elle, l'héroïne, pour éclater la gueule d'une des filles, va lui écraser les nibards.
Elle les enrouler autour de son cou, espèce de...
Ouais, c'est bourré de gros mots. Ouais, qu'elle parle vulgaire, bon, on n'est plus à ça près. Hein. Et c'est drôle.
C'est très, très drôle.
C'est très exagéré. Et oui, il faut savoir aussi que cette prostituée a un enfant, qui est quand même un point important de l'histoire.
Oui, parce que du coup, il faut qu'elle gagne de l'argent, alors du coup, elle veut utiliser ses super pouvoirs pour faire certaines pratiques.
Plus rapidement, parce qu'elle
est super,
super endurante.
C'est ça. Et donc du coup, elle va gagner plein de pognon. Mais sauf qu'elle n'a pas le droit d'utiliser ses super pouvoirs pour ça, parce que c'est pas...
C'est mal.
C'est mal, c'est pas le bien.
Voilà, par exemple, un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit d'uriner sur un ennemi vaincu. C'est mal.
C'est mal.
Voilà, c'est bourré de gags. Alors clairement, au dehors du côté cartoonesque, du côté débile, du côté parodique qu'il y a, ça apporte rien au genre. C'est juste un grand moment de rigolade. Pour peu que les super-héros un peu parfaits de la JLA vous aient toujours un peu gonflé, ou même que vous les aimiez et que vous sachiez prendre un peu de recul là-dessus, c'est très drôle. Avec ce Green Lantern, là, le citron vert qui parle en argot de la rue. Alors le traducteur, je ne sais pas qui est le traducteur, il faudrait fouiller parce qu'il est excellent, je trouve.
Teshi Barusha,
il a fait un boulot génial. Par exemple, le citron vert qui fait « on va se battre pour rendre l'injustice plus juste ». Voilà, un truc dans le genre. Enfin, c'est très bien écrit, c'est très drôle. C'est la pro. Si vous voulez passer un bon moment de rigolade, essayez de vous le procurer. Par contre, c'est pour lecteurs avertis. Hein, ça, on
confie. Oui, non, là voilà. Il ne faut pas être tout petit. Hein.
Voilà, c'est vraiment pour lecteurs avertis, parce que le vocabulaire et les pratiques de l'héroïne sont assez explicites.
C'est ça. Explicite lyrique, on peut pas dire autre chose.
Ouh, voilà. Et on en a fini avec nos BD pour aujourd'hui.
Nous passons donc au hors-série.
Et notre hors-sujet même, disons, plus.
Hors-série, en dehors d'une série, c'est du tout seul, quoi.
Et de quoi vas-tu nous parler, car c'est toi qui nous proposes quelque chose aujourd'hui ?
Les contes macabres.
Oui.
D'Edgar Allan Poe.
Oui.
Traduit par...
Charles Baudelaire.
Bien. Et donc, qui sont illustrés par... Benjamin Lacombe, donc c'est sur...
J'ai failli dire que c'est traduit par Benjamin Lacombe, tu vois, genre, je suis vachement...
Putain, la vache. Qui sont éditions, donc, Métamorphose.
C'est une collection ou des éditions ?
Collection Métamorphose.
Oui.
Et les éditions, c'est...
Ah, vas-y.
Soleil.
Oui, je sais pas, moi.
Bon, c'est la collection Métamorphose.
Enfin, je l'ai pas lu, si, je l'ai lu, mais j'ai pas lu celui-là.
C'est super beau, comme ça, tu dis ça, tu vois.
Mais non, mais c'est ton hors-sujet, c'est
toi qui nous présente ça. Bon, mais mon hors-sujet, donc du coup, c'est les histoires d'Edgar Allan Poe, donc on va prendre tous les classiques d'Edgar Allan Poe. La chute de la maison Usher, Bérénice, Le chat noir.
Non, oui, en gros, c'est une sélection des histoires extraordinaires, des nouvelles histoires extraordinaires.
Voilà, et qui vont être illustrées donc, par Benjamin Lacombe. On n'est peut-être pas dans de la bande dessinée,
on est dans l'illustration aussi.
Dans l'illustration.
De toute façon, on est dans le hors-sujet, on parle de ce qu'on veut qui nous plaît.
Voilà. Bon, écoutez, moi je me suis... Bon, d'une part, le livre pète. Il est splendide. Il fait vraiment avec une...
Petit vernis sélectif,
d'eau
toilée.
D'eau toilée, c'est beau, c'est agréable au toucher.
Cartonné.
C'est bien épais. Les illustrations sont vraiment superbes. Elles s'adaptent, je trouve, vraiment bien au récit d'Edgar Allan Poe. On est vraiment avec des dessins qui sont sombres, avec des petits personnages qui sont, on va dire, un petit peu manga, on va dire, si on parle juste de la grosseur des yeux, mais qui sont vraiment dans l'ambiance.
Disney faisait des très gros yeux aussi, on pouvait pas vraiment dire qu'il était manga.
Ouais, enfin maintenant... voilà, et voilà. Bonne... Voilà, si vous devez offrir un petit recueil des histoires extraordinaires donc de Garan Poe, pensez à ça, parce que ça fait un bon palliatif à un petit livre normal.
Et c'est chez Soleil ?
Ouais.
Ils font des trucs avec plein de textes et pas beaucoup d'images ?
Ça sent le coup bas, ça.
Non, mais c'est parce que j'aurais pu dire ça de chez Delcourt ou d'un autre. Hein. C'est juste que ça me surprend. J'aurais vu ça en partenariat avec un autre éditeur. Enfin bon.
Je crois que si, c'est parce que c'était le cinquantenaire ou soixantenaire de la disparition
de
Allan Poe, un truc dans le style. Je ne sais plus la date en tête. Ce qui est intéressant aussi dans le bouquin, c'est que vous avez toute une historique sur Allan Poe, sa vie, son œuvre, et aussi donc tout ce qui est paru, donc enfin tout ce qu'il a fait paraître. Voilà, c'était un petit bonus, on va dire, qui est intéressant.
Bien. Quand j'aurai le temps, je vais me jeter dessus parce que je vais te le garder un peu parce qu'il a l'air bien.
Non, il est bien, mais c'est vrai que voilà, toutes les illustrations de Benjamin Lacombe sont intéressantes. Et
je relirai Le chat noir pour la 50e fois.
Voilà, mais donc les histoires, en fait, le plus souvent, c'est vrai qu'on les a déjà lues. Maintenant, c'est vrai qu'avec les illustrations, ça fait un petit côté en plus. Et puis bon, c'est vraiment un beau livre, un très beau livre.
Ok. Eh bien, nous en avons fini avec ce podcast. Nous nous retrouvons dans 15 jours. On ne prend pas de vacances ? Non ? Non ? Hein ?
Non, il faut juste qu'on casse un peu plus notre compte en banque.
Voilà, on ne prend pas de vacances, on dépense des sous. Franchement, c'est terrible. Nous referons le podcast. On essaiera dans la piscine le prochain. Je crois que mon matériel ne va pas aider.
Moi, je veux bien, mais
les bouquins non plus.
On le fait qu'avec les tiens.
Ouais, non, ça ira. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez plein d'informations sur ce podcast sur le blog à l'adresse blog.jeudepied.org. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Arrête de bailler, je sais que tout ce qui est technique, machin chose, ça te fatigue. Ah, bravo, hein ! Donc, sur Facebook, facebook.com/oneaiclub, aimez-nous, oui. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur le blog, sur iTunes. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Toutes ces adresses-là se trouvent sur le blog. Laissez-nous des commentaires, ça nous fait toujours grandement plaisir, même pour dire du mal, on essaye de bien le prendre, en général on essaye d'en tenir compte. On n'a pas fait de délire comme pour notre 10e épisode sur ce mois-ci, on en refera peut-être.
La France n'a pas rejoué, c'est pour ça.
Ouais, on n'était pas très loin. Hein. sur les résultats finaux. On espère quand même qu'on trouvera des idées. On ne sait pas trop si ça vous a plu, pas plu. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent quand même. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt.
Le 13e, l'épisode.
Tadam.
Allez, à bientôt. Ciao.
Ciao.